Parce que vous parlez de la condition de la femme musulmane dans les pays musulmans, mais moi, ce que j'aurais souhaité que vous fassiez aussi, c'est que vous parliez de la femme, de la condition de la femme musulmane dans les pays non musulmans. Et en particulier, attendez, je termine, vous avez toujours l'air un peu étonné de nos propos, mais laissez terminer les gens. En France, par exemple, je prends le cas de la France, et de la condition de la femme musulmane en France, de la stigmatisation que l'on fait de la femme musulmane comme une personne quasi incompétente, incapable de pouvoir s'autogérer, de pouvoir s'autosuffire, de pouvoir être elle-même forcément sous la tutelle d'un tiers. Je trouve que c'est l'image que l'on donne de la femme musulmane en France est tout aussi dégradante que le portrait que vous avez fait de façon globale. Moi, j'ai une profonde estime. On va organiser d'ailleurs une journée spécifiquement pour la femme, parce que pour nous, moi-même en tant que musulman, je trouve que la femme doit avoir une place, mais tout à l'égal de l'homme, voire au-dessus. Parce que, par exemple, tout à l'heure, vous disiez que le musulman considère la mère considère que le paradis est sous les pieds de la maman, ce qui est pour une personne réduire la femme en tant que porteuse, en tant qu'enfantresse, mais à un très très haut niveau d'estime et de respect. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que moi je vois les choses, et comme ça que un grand nombre de musulmans voient les choses. Pardon ?
J'ai dit le contraire ?
Pas du tout. Est-ce que j'ai dit que vous aviez dit le contraire ? Absolument pas. Bref, le seul regret que j'ai par rapport à votre exposé, auquel j'adhère à 95%, c'est... non, mais c'est vrai, je le trouve très riche en soi et assez exact. La seule chose que je regrette, c'est simplement les références chiffrées statistiques qui datent de 2001. Je pense que la société a peut-être évolué depuis 12 ans, enfin j'ose l'imaginer. Simplement, j'ose l'imaginer. Alors vous avez dit c'était combien, un par an, c'est ça, ou trois par an? Je ne sais plus combien vous avez dit, vous aviez chiffré. Une minute par an. Donc, vous aviez cité tout à l'heure le cas d'une minute par an. Voilà. Donc en 12 ans, mesdames, vous avez gagné 12 minutes. Donc simplement, ma question, justement, c'est que cet avis que vous avez par rapport à la condition de la femme musulmane aujourd'hui en France. Et voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent d'autres?
Il y a quelqu'un
qui se lève
là-bas.
Oui, dites-moi.
Moi, j'ai été...
Vous pouvez vous lever.
Oui.
Non, c'est pas mis aussi petit quand il se lève.
En fait, moi, ce qui m'a un peu...
Levez-vous, s'il vous plaît, parce que je ne vous entends pas quand je vous vois.
Oui,
pas.
Ce qui m'a un peu... il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Moi, je suis arrivé... Je suis arrivé, malheureusement, je n'ai pas assisté à la première partie. J'ai assisté, je suis arrivé à 21h30, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans votre exposé. Je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup d'amalgames. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je trouvais qu'il y avait des images comme l'image de la lapidation. Je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que personne n'adhère à ce genre de pratique. Et ça, c'est un peu caricatural, quoi. Je trouve que c'est une façon de stigmatiser. Je suis désolé, mais monsieur avait raison. On aurait pu montrer, même si c'est sur la place publique, ben, à ce moment-là, une situation d'une femme violentée par son mari aux États-Unis, lacérée à coups de couteau. Bon, moi, ce qui m'a choqué personnellement dans votre démonstration, c'est que vous citez à plusieurs reprises Elisabeth Badinter. Donc, ça, à mon avis, ça veut dire que dans votre esprit, Elisabeth Badinter doit être une référence, je pense, puisque vous la citez.
Moi, c'est une référence.
Voilà, oui, donc je ne me suis pas trompé. Or, je suis désolé, Elisabeth Badinter, pour moi, ce n'est pas du tout une référence, parce que c'est une pseudo-féministe. Elle a fourvoyé la cause féministe. Elle est actionnaire dans un groupe Publicis, une agence de publicitaire qui, justement, Si, tout à fait, mais le, non, mais il ne réagissait pas comme ça. C'est une agence qui, justement, pour vendre un pot de yaourt. Mais quel est le rapport?
Est-ce que vous pouvez.
Elisabeth Badinter, attendez, je vais vous expliquer le rapport.
Est-ce que vous pouvez. L'objectif, c'est ce que fait Racine des Chemins, au-delà des commentaires qui, sont, qui peuvent exister, essayer de poser des questions.
Alors, je pose ma question. Comment vous pouvez, d'un côté, mettre en avant le droit des femmes? Valoriser le droit des femmes, là-dessus, je pense que je vous rejoins, et citer une personne comme Elisabeth Badinter qui est aux antipodes, justement, de ce combat-là. Parce qu'Elisabeth Badinter, elle, je vous dis, elle a pendant des années, elle est actionnaire dans un groupe qui s'appelle Publicis, elle vend un pot de yaourt, elle marchandise la femme.
Alors, on va laisser,
donc, c'est pas un exemple, je suis désolé.
On va laisser la conférencière répondre après. Est-ce qu'a priori,
en tout cas,
parce que c'est facile de la règle du jeu.
C'est peut-être un exemple en Tunisie, mais en France, c'est pas un exemple, Elisabeth Badinter. Elle a fourvoyé la cause féministe.
Alors, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres...
D'avoir, effectivement, des choix littéraires, philosophiques, vous avez le droit d'en avoir d'autres, mais vous n'avez pas à me le reprocher. Et puis, je vous fais remarquer qu'elle est la fille de Publicis. C'est pas, elle n'a pas fait Publicis, elle est la fille, c'est son père qui l'a fait. Si elle est née... Bon, comme ça, bon, avec une cuillère d'or dans l'œuf, ça ne veut pas dire qu'elle est pseudo-féministe. Et je me refuse absolument à discuter du féminisme d'Elisabeth Badinter. C'est une des femmes les plus remarquables que j'ai jamais lues. Et j'ai lu tous ses ouvrages. Tous. Bon. Alors, essayez de les lire et vous m'en direz des nouvelles. Bien. La question de votre voisin était quand même beaucoup plus intéressante. Que de parler des personnes. Je n'aime pas parler des personnes. Je vais juste répondre et puis à votre ami qui est juste derrière. Vous avez fait le reproche de ne pas avoir parlé des femmes musulmanes, de la stigmatisation des femmes musulmanes. Hein ? Oui, mais c'est pas grave. Non, mais on est là. Moi, je n'ai rien contre les reproches. Pourquoi qu'ils soient argumentés ? Hein ? C'est pour votre question m'a plu. Moi, j'aurais aimé ne consacrer une conférence qu'à ça, par exemple, en soi. Bon, on ne peut pas. Quand il faut aborder un problème, il y a des critères de choix. J'ai choisi, c'est vrai, délibérément, de choquer, de montrer les images les plus choquantes, parce que je suis désolée, encore une fois, une femme lapidée, ce n'est pas une femme qui est lacérée par son mari. Je suis absolument, mais alors au regret... De le redire, et j'estime que c'est mille fois plus grave, bon, de fixer par décret la taille des pierres qui doivent tuer une femme, bon, et j'ai oublié encore de vous dire, parce que je pourrais vous dire aussi, que les femmes sont enterrées jusqu'au cou pratiquement, alors que les hommes ne le sont que jusqu'à la taille, l'inégalité même dans la mort, bon, et passons. Moi, je voulais effectivement choquer. La situation de la musulmane dans les pays occidentaux est un problème qui mérite à lui seul vraiment tout un débat. Parce que vous me parlez de stigmatisation. Stigmatisée par qui et par quoi? Par le regard du pays hôte, par le regard du pays d'accueil, par le regard de la communauté d'origine. Elle est stigmatisée par tout le monde, je vous assure. Et je fais vraiment là, alors là, depuis maintenant 8 ans que je suis en France, vraiment, je commence à voir une série assez intéressante, donc de femmes issues de ces communautés, et qui ne savent plus à quelle communauté elles appartiennent, je vous assure. Les hommes aussi, ceci dit. Hein. Les hommes, en ce sens-là, je crois que ils sont moins favorisés que les femmes. Parce que les femmes trouvent quand même une certaine valorisation ici. Alors que les hommes perdent les deux piliers de leur suprématie dans les pays occidentaux, le travail, ils sont souvent chômeurs. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme qui est chargé de subvenir aux besoins de la famille. Et deux, sa femme lui échappe et ses filles lui échappent. donc la suprématie sur les femmes. Mais c'est un problème tellement compliqué qu'on ne peut pas vraiment... Là, je vous résume très très rapidement le résultat des études que j'ai faites. Les hommes sont en détresse, mais les femmes s'en sortent plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, vous faites référence probablement à la stigmatisation du voile, à ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est ça ? Bon, alors je vais juste vous dire un terme, parce que phobie est un terme psychiatrique. Il est
comme
passé.
La xénophobie, comme l'homophobie, etc.
Oui, oui, oui. Il est passé dans le langage courant, mais a été détourné.
On est bien d'accord.
Voilà, complètement détourné de son sens. Phobie signifie peur. Ce n'est pas la haine. Voilà.
Mais sur l'aspect sociétal, la xénophobie, l'homophobie. C'est le rejet dans le contexte.
Ça a été détourné, justement, voilà, c'est d'accord. Ce que je dis, ça a été détourné. Mais moi, quand j'entends phobie, j'entends. Moi, j'ai la phobie des araignées, par exemple. Ouais. Je déteste pas les araignées. J'oserais même pas l'écraser, d'ailleurs. Mais j'ai peur, j'ai une peur irrationnelle. C'est ça, la phobie. C'est ça. Alors, je pense qu'il faut réfléchir. Pourquoi les gens ont peur de nous ? C'est à nous aussi à réfléchir. Pourquoi ? C'est tout. Moi, je reprends toujours les choses à mon compte. C'est trop facile de renvoyer à l'autre. Hein. Bon, de faire de la projection. Moi, je dis, qu'est-ce qui fait qu'en nous, en notre comportement, mais pourquoi on inspire de la peur ? Et maintenant, moi, je parle en tant que femme. Parce que c'est la phobie des femmes. Tout ça est nourri par la phobie des femmes. Toute cette cruauté. Je reviens aux femmes parce que c'est ça mon sujet aujourd'hui, moi. C'est pas mon problème, le racisme en France ou l'islamophobie en France. Mais pourquoi les hommes nous semblent nous haïr à ce point ? Eh bien, j'ai fini effectivement par comprendre que c'est parce qu'ils étaient terrorisés. Ils ont très peur des femmes. Bon, ce serait là aussi trop trop long à expliquer, mais c'est une véritable phobie, une peur irrationnelle, peur de la sexualité de la femme, peur de tout ce que peut provoquer la femme. Et donc, on a envie vraiment de l'occulter au maximum. La mère est sacrée, oui. La mère est sacrée, mais pas la femme. Et les sociétés qui sacralisent les mères, généralement, dévaluent les femmes. Ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est les chrétiens qui l'ont trouvé, c'est d'être vierge et mère.
Alors, on essaye. Hein, il est 22h35. On se donne encore un bon petit quart d'heure. Hein, si on veut faire tourner les questions, on essaye d'être court dans nos questions. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever parce qu'on n'entend pas vos voix là.
J'avais d'abord une remarque avant la question. C'était quand...
Courte, hein.
Oui, tout à fait. Si on ne trouve pas, parce qu'après, ça reste. C'est au moment où on parlait de l'âge du mariage. C'était pour vous préciser que dans les pays du Maghreb, il y avait quand même un âge limite, qu'il y avait des codes qui étaient mis à jour et qui correspondaient à peu près aux critères européens. Par exemple, au Maroc, c'est 18 ans. C'est pas en dessous. Et ça, c'est sûr. Non, mais... Moi, j'en reviens, donc je peux vous le dire. C'est par rapport à quand on voyait en Iran, âge légal 9 ans. C'est par rapport à votre auditoire qui n'a pas forcément un visuel sur tout l'espace arabo-musulman, voire que d'un côté, il y a le Maghreb, de l'autre, il y a l'Asie du Sud-Est. Entre les deux, il y a encore beaucoup de choses. Voilà, point barre. Ensuite, j'avais une question, par contre, sur ce que vous nommez la polygynie. C'était pour savoir pourquoi elle entraînait de facto la répudiation. Et Oui, mais j'ai pas fini. Et par rapport à la répudiation, j'ai toujours cru qu'il fallait des raisons. Répudiation ou divorce. Hein. Qu'il fallait que le mari ou la femme, parce qu'elle aussi peut demander le divorce, ait des raisons claires. Voilà.
Je préfère répondre parce que sinon ça m'échappe après. J'ai dit la polygynie implique la répudiation. Parce que de fait, ça va ensemble. Ça va ensemble. Dans la charia, ça va ensemble. Quand on a le droit d'épouser...
Mais
prenez des exemples.
Madame,
chacun va me dire. Moi,
on
ne
peut pas dire la
charia au Maroc. Je sais qu'au Maroc, la moudarona a changé. Mais je connais tout ça. Mais je ne suis pas là pour parler à des Marocains et à des Algériens. Je suis là pour parler à une communauté qui vit en France, de communautés qu'elle ne connaît peut-être pas.
Mais justement,
bon,
éviter les
et je suis là encore une fois pour dénoncer les abus. Pour dénoncer les abus. Je ne suis pas là pour faire le panégyrique, pour dire « Venez voir en Tunisie comme c'est beau. On a un code du statut personnel qui a aboli la polygamie, la répudiation. » Mais c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est de dire malheureusement, on continue à tuer des femmes. Malheureusement, on continue à lapider des femmes. Malheureusement, on continue à violer et voiler des fillettes. Et malheureusement, on est menacé en plus d'étendre encore tout ça. On est menacé de régression. Mais c'est ça, moi, comme femme. J'ai parlé de l'angoisse des femmes. J'ai pas, mais vous entendez quoi? Vous entendez ce que vous voulez entendre ou quoi?
Je vous pose une question.
Mais j'ai répondu.
Parce que moi, j'ai vu des cas de polygynie.
Alors, le Maroc a adapté. Il y a des pays, les pays du Maghreb. La Tunisie a supprimé, carrément. Bon, la répudiation et a instauré le divorce légal. Bon, le Maroc a fait un petit compromis. Bon, il faut l'accord de la première femme pour épouser une deuxième femme. Il faut qu'il y ait un statut de il faut quoi, une justification. Mais une Marocaine demander le divorce, ben ça se voit qu'on n'en a pas vu beaucoup.
Ah bon?
Oh là. J'en ai une série. C'est un parcours du combattant, c'est pas un chemin de croix. Pour une femme, d'obtenir le... Bon, peut-être que... Mais ces dernières années, ces 2-3 ans, ça a changé, oui, peut-être à la faveur du printemps arabe.
Même avant.
Non. Je vous assure. Je vous assure.
Elle seule 3 divorces à son initiative.
Oui, mais ça existe. Les exceptions qui confirment la règle, ça existe. Mais encore une fois, c'est pas ça. Moi, je ne veux pas d'une femme qui divorce 3 fois dans sa vie. C'est pas ça que je demande. Moi, je demande une égalité en droit. Point à la ligne. C'est tout. Et tant qu'on n'y est pas, je continuerai à dénoncer les abus, les excès. Je ne dirai pas que... Je ne féliciterai pas le Maroc ou la Tunisie pour ce qu'ils ont fait, mais je continuerai à dénoncer l'Iran, je continuerai à dénoncer l'Arabie Saoudite qui veulent exporter leur modèle.
Ça, c'est très bien.
Voilà, c'est tout. Voilà.
Vous n'avez pas répondu.
Voilà, c'est tout. Merci.
Mais c'est Elisabeth Badinter qui exporte ces... C'est une autre présentation. Moi, je vous le dis. Hein.